Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Lodève, il est 20h, c'est l'émission de radio de l'association Paysarbre.
Bonsoir.
Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Tanguy.
On est très content encore une fois d'être avec vous en cette nouvelle année 2018 et comme on est au mois de janvier, on peut encore vous souhaiter plein de belles choses pour cette année à venir, cette année en 8.
Des belles récoltes, des beaux fruits, tout plein de belles choses quoi. Et voilà, 2018, on va le commencer en beauté et on va reprendre donc notre petite chronique, enfin notre petite manière de faire habituelle. Allez, on s'y met, on se lance, on commence par l'arbre du mois. Pardon, hein, c'est un petit peu laborieux cette remise, cette remise en œuvre. Donc l'arbre du mois, allez, on y va. C'est l'amandier.
Et oui, je suis parti sur l'amandier. L'amandier parce que c'est vraiment une des premières fleurs. L'amandier parce qu'il est merveilleux quand il fleurit. L'amandier parce que c'est une vieille histoire avec la Méditerranée. Il vient pas d'ici l'amandier. C'est un arbre, son bassin, son écosystème natif, c'est l'Asie occidentale. Et par contre, il est là depuis longtemps parce que on l'atteste en Méditerranée. C'est les Arabes qui l'ont fait beaucoup circuler. On l'atteste 2000 ans avant notre ère. Et c'est vraiment un arbre qui participe de la culture des terres sèches et caillouteuses, quoi. C'est vraiment un arbre qui va toujours bien se plaire sur les coteaux, jamais dans les terres profondes et limoneuses. Donc c'est vraiment un cadeau pour les terres pauvres de Méditerranée. Et il a été énormément cultivé, aussi parce que son fruit se conserve de manière facile de très longtemps. On peut garder des amandes même jusqu'à 2 ans, elles sont encore tout à fait consommables. Voilà, c'est une graine, hein. La graine, elle a un instinct de survie long. Moi, j'en ai déjà planté que j'avais gardé 3 ans et elles sont l'arbre a poussé. Donc, elles restent en vie longtemps et on bénéficie d'une chouette nourriture pour l'hiver.
Et pour les gourmands, d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez réhydrater une amande. C'est assez sympa. Ça change un peu de l'amande sèche. Vous la mettez une nuit dans un peu d'eau et elle se réhydrate et ça change un peu la texture, le...
Alors, ce qui m'amène à dire, je ne sais pas si vous avez déjà eu la curiosité ou la chance de goûter des amandes fraîches, c'est-à-dire qu'on va cueillir courant du mois d'août et qui ont encore de l'eau à l'intérieur. Et là, vous n'êtes vraiment pas du tout sur les mêmes goûts, c'est-à-dire qu'on change de l'amande qu'on a un peu en amuse-gueule lors des apéritifs et qui est effectivement très sèche. Et on a une amande qui est laiteuse vraiment et avec un goût un peu plus doux que quand elle a séché. Donc ça, c'est vraiment à redécouvrir l'amande fraîche. Il faut pas hésiter à la cueillir quand elle est encore dans sa coque et en profiter en plus au cœur du mois d'août. C'est vraiment très agréable de goûter à l'amande fraîche. Alors moi, il y a une anecdote que j'aime bien avec l'amande. Et l'amande, telle qu'on la mange, c'est une erreur de la nature. Dans le sens où, en fait, pour l'arbre... Alors c'est une erreur de la nature qui a bien réussi. Hein, et c'est un truc qui arrive assez souvent finalement. La stratégie primitive de l'arbre, de plusieurs arbres, en tout cas dans la famille des prunus, c'est de pour éviter que les animaux ne mangent leurs graines, vu qu'ils ont besoin que la graine fasse plutôt la traversée d'un estomac plutôt qu'elle soit mangée. Souvent, il y a du poison à l'intérieur des graines. Hein. C'est l'acide cyanhydrique dont on tire le cyanure. Donc, c'est un poison violent qu'il ne faut pas du tout sous-estimer. C'est le même principe actif qu'on va avoir dans le laurier rose, qui est un arbre qu'il faut bien connaître et qu'il faut bien faire connaître aux enfants parce que c'est un arbre qui potentiellement est très toxique parce que là, c'est ses feuilles qui contiennent de l'acide cyanhydrique. Donc, cet acide cyanhydrique est très utilisé par le règne végétal, souvent pour protéger certains de ses...
Leurs
fruits, oui, particulièrement, plutôt leurs graines. Parce que le fruit, au contraire, ils essayent de le rendre appétant et sucré. Mmh. Et en échange de ce sucre, ils nous demandent de transporter leurs graines. Et donc le cas de l'amande douce, il est très particulier parce que finalement, un jour, il y a un amandier qui a poussé et sûrement qu'il a oublié l'acide cyanhydrique dans son code génétique. Et en tout cas, il y a un humain cultivé qui est passé à côté. Et depuis, on reproduit les amandes douces parce qu'on a trouvé que c'était très, très agréable et bon. Et surtout, c'était pas toxique, on pouvait en consommer.
Mais peut-être que cet amandier, il s'est dit, comme j'ai fait une coque autour de mon amande, j'ai peut-être pas besoin de mettre du cyanure dans l'amande. Peut-être pas. Hein.
Alors, à quoi pensent les arbres?
On en parlera
on
bientôt,
en parlera un peu
d'ailleurs.
Plus tard. Voilà, c'est juste pour vous pointer du doigt qu'on ne doit l'amande douce et sa connaissance que parce que, d'une part, il y a eu une erreur à un moment sélective dans la suite de l'évolution, et puis qu'ensuite, ben, l'humanité s'est saisie de cette erreur, de cette amande douce, et l'a reproduit par des techniques dont on vous parle très régulièrement dans cette émission, à savoir, par exemple, la greffe végétale qui permet des reproductions non sexuées et donc de conserver des caractères originaux. Et le caractère original de l'amande, c'est vraiment d'avoir oublié l'acide cyanhydrique. Après, il y a aussi plein d'usages à l'amande amère. Hein. On la connaît en pâtisserie juste pour le goût. C'est toujours pareil. Les toxiques, c'est une histoire de dose. Et donc, à très faible dose, on peut ingérer un peu d'acide cyanhydrique. Mais faites attention, si vous en mangez 4-5, assez vite, c'est la migraine. Et des doses supérieures peuvent aller jusqu'à la mort. Hein. On est là sur des toxiques quand même très puissants.
Et de l'amande, on tire aussi de l'huile, qui est un usage plutôt cosmétique. On n'en mange pas de l'huile d'amande douce.
Alors, l'huile d'amande douce, qui étonnamment est plus souvent réalisée avec des amandes amères.
Hein. Ah bon ?
Oui, qui sont souvent distillées à chaud pour enlever le côté toxique. Mais quand on parle d'huile d'amande douce, c'est surtout pour la douceur de l'huile dont on parle et pas de la douceur du fruit. Enfin bon, voilà.
Ben, on en apprend des choses.
Mais j'espère bien.
Et donc, on a beaucoup parlé donc, du fruit et de la graine.
Mais parce que j'ai l'impression que les gens l'ont un peu dans l'œil. C'est parce que c'est vraiment la première fleur qu'on va saisir.
En février, normalement.
En février. Alors, si vous habitez sur le plateau, il y a des fleurs qui la précèdent des fois un peu, comme celle du cornouiller, qui sont jaunes vifs, qui viennent un peu à la même période. Mais là, s'il continue à faire doux comme ça, on en parlera après avec le dicton du mois. Je pense qu'on va voir dans les semaines très très proches, là, les premières fleurs d'amandier. Je veux dire, lui, on dit toujours folle amandier parce que, on a l'impression qu'il fait des fleurs et qu'il risque le coup quoi chaque année de passer à travers le gel. En tout cas, il est un des premiers arbres à fleurir. Et alors ici, dans la région, vous prenez ne serait-ce que l'autoroute A75 qui nous traverse et qui traverse tout le cœur d'Hérault. Dans 15 jours, vous allez commencer à voir, à mon avis, les premières fleurs, s'ils continuent à être doux comme ça. C'est des fleurs blanches ou roses, suivant les... Et c'est vraiment marquant, c'est cette floraison de l'amandier. Il fait beaucoup de fleurs et c'est très visité et donc c'est très visible. C'est pour ça que j'avais envie de parler de lui en ce mois de janvier encore un peu froid.
Et sur son bois, tu as des choses à nous apprendre ?
Le bois d'amandier, il est assez coté chez les travailleurs du bois. Enfin, quand je dis les travailleurs, ceux qui font de la sculpture ou en bois d'œuvre, en bois d'usage, je pense qu'on l'utilise comme d'autres fruitiers, peut-être pour de la menuiserie ou
la marqueterie.
Ou de la marqueterie, c'est un bois assez précieux qui se polit bien. Voilà, plutôt pour les petits objets que pour... c'est pas un bois qui est connu pour faire des manches ou des outils. C'est plutôt un bois qui est connu pour être un joli poli et une belle conservation.
Passons donc au dicton du mois. Alors, je le lis. Ce dicton, il nous dit que si janvier ne prend son manteau, malheur aux arbres, aux moissons, aux coteaux. C'est un peu de mauvais augure, cette affaire.
Ben, de mauvais augure, tout dépend ce qu'on appelle malheur. Parce que finalement, dans le malheur qu'on octroie à l'autre, là, en l'occurrence, les arbres, les moissons et les coteaux, c'est notre propre malheur dont on parle. En tout cas, je pense que c'est des vieux dictons populaires et que souvent, ils sont aussi issus d'une pratique paysanne et que finalement, le malheur réel, il est pour les récoltants à la fin. Et il y a des années qui sont plus ou moins bonnes. Et du coup, c'est vrai que dans le temps qui fait, on met beaucoup d'attention parce qu'on sait que ça va induire tel ou tel résultat sur les récoltes.
Mais là, en gros, ça veut dire s'il ne fait pas suffisamment froid en janvier, le malheur est sur toutes les récoltes. Et moi, ce que je vois, ben, je sais pas, hein, mais ce que je vois, c'est malheur aux arbres, aux moissons, aux coteaux. Est-ce que ça veut dire que c'est le malheur sur toute l'année végétative? Ça remet en cause toute l'année végétative? Ou pas, je sais pas.
Alors, j'aurais envie d'entendre dans les coteaux peut-être les vignes ou les choses comme ça.
Et du coup, du printemps à l'automne, printemps, été, automne. Malheur sur toutes ces...
Je crois pas, non, c'est plutôt sur ces trois récoltes-là. Les arbres, pourquoi ? Parce qu'ils vont avoir tendance... Là, je sais pas si vous vous promenez, faites attention, les frênes sont en train d'ouvrir leurs bourgeons. Quand il fait doux, l'arbre, il tente le coup. Hein. Il va tenter pas forcément sur l'ensemble de sa colonie, il va peut-être pas ouvrir tous ses bourgeons. Il met pas tous ses œufs dans le même panier, mais il tente le coup et du coup il y a des départs en végétation parce que il fait 18 degrés et que la lumière remonte. Et du coup là il y a un vrai risque qui est que ben en février on le sait il y a des gels qui peuvent être violents. En tout cas dans la culture paysanne c'était acquis que ici on le sait dans la région des fois février c'est très violent. C'est ce qui s'est passé en 56. Hein. Je cite souvent cet exemple, mais le gel de 1956 c'est un gel de février. Après un mois de janvier très très doux. Et donc c'est là la peur, c'est-à-dire que ben, la récolte, si les végétaux partent trop en sève, s'il y a un gros coup de froid derrière, on a des gelées, on a des pertes des rameaux neufs, les rameaux de l'année, et donc on a une perte complète sur toute la saison.
Sur toute l'année, ouais.
C'est ce qui s'est passé sur les coteaux, justement, en tout cas sur les vignes, pas forcément en coteaux, mais plutôt l'année dernière, il y a eu un gel carrément du mois d'avril qui a fait très très mal à la viticulture dans la région. Voilà, et c'est la douceur qui précède le gel qui est problématique finalement. C'est pas la gelée en elle-même, tous nos arbres à feuilles caduques, la vigne qui perdent leurs feuilles l'hiver, ils attendent le gel à ce moment-là. Mais à partir du moment où ils repartent, ils se disent ça y est, on est au printemps, la lumière revient, et qu'il y a un coup de gel, c'est là que ben il y a une perte pour les récoltes, et donc il y a malheur pour le paysan qui n'a que ça comme ressource. Hein, ces dictons, bien évidemment, datent d'un temps où le magasin ne pouvait pas forcément fournir s'il n'y avait pas de production. Quoi.
Où la France était agricole à 80%.
C'est ça. C'est bien de ça dont on parle. C'était il n'y a pas si longtemps. C'est le moment d'un... je rigole parce qu'on a un petit... on a prévu une pause musicale. Et comme on trouvait qu'il n'y avait pas eu assez d'hommages rendus à France Gall et qu'on était attaché à l'immense talent et à l'immense traversée de cette fin de siècle de cette chanteuse, on s'est dit faut absolument qu'on trouve un morceau de France Gall pour la célébrer encore un peu, pour sa mémoire. Et on a cherché un morceau de France Gall, on s'est dit est-ce qu'elle a chanté quelque chose qui parle d'arbres, de nature, et on n'a pas vraiment trouvé, à part le morceau qui s'appelle « Des branches ». Et donc je vous propose une pause musicale avec « Des branches » de France Gall, on se retrouve juste après. c'était France Gall, un monument quand même.
Mais moi, j'ai bien écouté et finalement, elle nous parle de nature. Hein. Elle dit des branches, éteins ton ordinateur, va dans la nature. Et elle parle de communication et tout. Non, c'est une écologie humaine, comme tu as l'habitude de dire. Merci,
soit.
France Gall. Alors. Ce mois-ci au verger, qu'est-ce qu'on peut bien faire? C'est le temps un petit peu creux, peut-être?
Pour ce qui nous concerne, nous, avant que les bourgeons se réveillent, on ramasse encore du greffon. Hein, ça, vous pouvez le faire encore largement sur le mois de janvier. Ça va commencer à être tendu justement sur les premiers qui partent. Amandiers, même prunelier, la prune peut-être va commencer à bouger. Mais tous les greffons des pépins, qui sont beaucoup plus tardifs, pommes, poires, vous pouvez encore ramasser des greffons largement tout le mois de janvier. Donc ça, c'est encore un bon moment pour se promener au verger, pour ranger, pour préparer le printemps qui vient, pour vérifier que, enlever l'herbe qui commence à se pointer au pied des arbres si vous en avez, pailler généreusement, on vous le dira jamais assez, éviter l'herbe sur vos jeunes plantations, éventuellement on peut mettre un petit coup de sécateur, on voit bien les structures encore, il n'y a pas les feuilles, donc pour tailler, c'est même si... c'est pas forcément le top en termes de saisonnalité. Il faut pas hésiter si c'est pas des grosses tailles. C'est un bon moment parce qu'on n'a pas trop de choses à faire encore au jardin. Donc c'est un bon moment aussi pour être contemplatif le mois de janvier. C'est vrai, hein, on est encore un peu dans le trou de l'hiver. Donc promenez-vous, regardez.
J'étais en train de me penser à... Tu parlais de récolter les greffons. Pour ceux qui ont raté le rendez-vous de samedi dernier, justement, qui était consacré à la récolte des greffons, peut-être que tu peux rappeler 2-3 petits principes simples, faciles
alors,
à mettre en œuvre.
Alors, très vite, n'hésitez pas à nous rejoindre à Paysarbre. mais parce que tu parles du rendez-vous de samedi dernier, ça, c'est des petits rendez-vous qu'on fait pour les adhérents. Ça dure une heure ou deux et on donne des petits trucs comme comment bien ramasser ses greffons. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est pas forcément simple de voir la branche qu'il faut prendre et tout. Donc, c'est du bois qui a poussé l'année précédente, qu'on va couper sur un arbre qui nous intéresse de reproduire. Et puis, on va le ranger dans un tas de sable qui voit pas la lumière, de manière à le faire attendre le moment où on va le mettre en œuvre. Voilà, hein, pour faire gros. Alors, je vous répète ça régulièrement. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions un peu techniques. On vous mettra à la fin de l'émission tous les liens sur nos...
Les références, les contacts.
Les contacts et tout ça. Mais n'hésitez pas à nous contacter pour des questions techniques.
Et de la même manière, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un vieil arbre au fond de votre jardin qui fait des fruits délicieux, qui a l'air assez ancien. Contactez-nous, dites-nous, décrivez-nous-le, et puis on passera à l'occasion le rencontrer, vous rencontrer, et puis le mettre dans notre petite... dans notre mémoire, dans notre liste des futurs donateurs de greffons. Pour reproduction future.
Oui, c'est des travaux dont on vous parle régulièrement. Hein. On fait cet inventaire, c'est un travail de longue haleine, et chaque année, on trouve un arbre ou deux qu'on connaissait pas l'année précédente. Et on est content, on augmente notre capital fruitier, et en tout cas la connaissance du territoire, et ça peut pas se faire sans vous. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours content de partager sur nos passions communes.
On va écouter un son qui a été extrait d'une émission d'Envoyé spécial sur France 2 et qui parle du bain de forêt. Alors c'est une pratique qui vient du Japon. On vous laisse écouter ce petit son très bref et puis on en discute derrière.
En fin de parcours, au sommet de la montagne, il reste un dernier rituel à observer, à côté du temple.
On va se servir des arbres qui sont derrière moi. On va les enlacer. On n'entendra peut-être pas l'eau qui circule dans le tronc, mais on va essayer de ressentir les énergies de l'arbre. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà ressenti enfant, quand vous jouiez avec les arbres. Faites appel à vos souvenirs d'enfant. Essayez de communiquer avec les arbres, d'entrer en contact avec eux.
Un contact comme pour se nourrir de leur sagesse et de leur surprenante sensibilité.
On vient tous de la nature, donc ça nous fait du bien. J'essaie de ne pas penser, juste de ressentir les énergies.
Voilà, c'était un tout petit son. On s'est dit que quitte à parler un petit peu de quelque chose qui est en train d'arriver vers chez nous, enfin moi j'en entends parler depuis peu finalement, en tout cas de manière grand public, alors que c'est une tradition ancestrale au Japon. Alors j'avais noté le nom du bain de forêt en japonais, ça se dit Shirin Yoku. Je m'excuse auprès de tous les Japonais si j'ai dit n'importe quoi, mais...
L'intention y était.
Voilà. Et donc le Shirin Yoku, c'est cette pratique qui est de se soigner par une présence et par un rapprochement. Donc là, carrément, on voit dans cette... Parce que c'est issu d'une vidéo, comme l'a dit Raphaël, d'envoyé spécial. On les voit vraiment enlacer le tronc. Et je trouve ça assez touchant, finalement, cette pratique...
Pratique que, comme tu le disais, qui est ancestrale au Japon et que donc en Occident on découvre petit à petit, mais avec une approche plus scientifique, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Alors scientifique, moi j'ai lu divers articles ces derniers temps où effectivement on atteste d'un mieux-être avec les arbres, qu'on atteste d'un mieux-être en forêt, parce que l'air qui est en forêt n'est pas chargé de la même manière que l'air des espaces très urbanisés. Et du coup, il y a un apaisement, semble-t-il. Et on voit, les derniers articles que j'ai pu lire faisaient état d'études qui m'ont l'air assez sérieuses, signées par des docteurs bien sous tout rapport, qui ont l'air de valider finalement des choses qu'on pouvait ressentir déjà. C'est-à-dire que on a cette connaissance là aussi, nous, où tout le monde apprécie d'aller passer 3 heures en forêt à chercher des champignons. C'est pas que pour les champignons qu'on...
C'est pas aussi des histoires d'ions, etc., des histoires de composés volatiles, enfin, il y a plein de, chimiquement, électromagnétiquement, il se passe effectivement des choses.
Il y a certaines études qui disent qu'il y a plus d'ions, alors je vais, là encore une fois, peut-être dire une bêtise, il y a plus d'ions, je crois,
négatifs
en forêt que... Négatif, me dit Raphaël.
Oui,
en tout cas, la composition de l'air est différente. Et du coup, ça a une incidence. Et ça nous amène à nous sentir mieux. Et qu'effectivement, quand on est dépressif, c'est en forêt qu'il faut aller se promener.
Ça s'appelle la sylvothérapie.
Et aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à prôner et à accompagner des groupes en Europe sur cette sylvothérapie. Alors, c'est vrai que c'est une approche nouvelle et qui peut laisser un peu sceptique parce qu'on n'a pas cette culture-là.
On l'a pas. Attends, ça me fait penser à... Je sais pas si vous êtes déjà allé voir les nymphéas de Monet à Paris, à l'Orangerie. Et donc, bon, bref, c'est un endroit gigantesque, une pièce entière où Monet a peint sur les murs les nymphéas. Et il y a une phrase qui dit, au début du XXe siècle, une phrase qui dit que la perte du contact de l'homme avec la nature engendrera les pires horreurs et les pires maux. Donc on l'a quand même aussi, un peu cette sagesse et cette sensibilité au contact à la nature et à ses bienfaits. Faut pas non plus sous-estimer. Moi j'adore le Japon, mais quand même.
Non, il faut pas sous-estimer. Après, on n'a pas de... Est-ce qu'enlacer un arbre, ça répare les rhumatismes? Rien ne le dit. Et il n'y a pas d'études scientifiques qui actent ça. Donc c'est plus de l'ordre du bien-être et du ressenti.
Mais on en saura sûrement plus parce que donc la sylvothérapie, la gémothérapie, ça va être des thématiques qu'on va aborder pendant notre petite fête de l'arbre. Donc on pourra vous en dire plus, on sera plus savant et plus sage bientôt. Et du coup, la gémothérapie, la sylvothérapie, tu veux nous dire un petit mot sur l'intervenant qui va venir nous parler de ça?
Alors,
pour la petite fête de l'arbre.
Ça nous ouvre un petit peu sur le dernier bout de cette petite émission de janvier où on voulait commencer à vous faire saliver, vous donner l'eau à la bouche en vous donnant un petit peu les grands points de la programmation de la prochaine petite fête de l'arbre qui se tiendra à l'Odève le 9, 10 et 11 mars 2018.
Voilà. On remet ça, c'est la troisième.
On remet ça, c'est la troisième, absolument.
Sur 3 jours.
C'est toujours sur 3 jours. Et puis, cette année, on a décidé de se mettre à l'écoute de l'arbre. C'est la thématique de l'ensemble de la manifestation. Et il y a énormément de rendez-vous qui vont ponctuer cette fête, parce qu'on aime bien qu'il y ait du contenu et du sens et de l'information.
Et des approches très diverses, justement. Encore une fois, on va essayer d'avoir des approches artistiques, des approches très scientifiques, très pragmatiques, des ateliers plus autour des sens. Enfin voilà, on va essayer de diversifier toutes les approches, mais autour de cette thématique de l'arbre nous parle, écoutons-le, communiquons avec lui.
Tout à fait. Et donc il y a effectivement un intervenant qui nous parlera plus spécifiquement de gémothérapie. On avait eu une invitée il y a quelques mois qui vous en avait parlé. La gémothérapie, là, c'est faire des potions avec les bourgeons des arbres. Et donc, c'est parce que dans le bourgeon, finalement, il y a toute l'année de l'arbre résumée. Et à cet endroit-là, il semblerait qu'on ait le totem de la plante se résume dans le bourgeon. Et donc, il y a tout un travail de préparation à base de bourgeons. On appelle ça la gémothérapie, on en a déjà parlé, et donc ça sera une des entrées, et c'est Stéphane Boitard qui viendra présenter cette entrée. Je crois que ça sera pendant une promenade durant la journée du samedi, donc il y aura une promenade en forêt avec cette entrée-là du soin juste par l'espace forestier.
Et puis on a quelques guest stars, comme on dit. Est-ce qu'on... On spoil déjà ou au contraire, on continue à vous allécher?
Alors, je vois que tu fais dans l'anglicisme.
Yes.
Mais non, je pense qu'il faut donner un petit peu les... Alors, je ne sais pas si... Je pense que c'est des gens très humbles, c'est des chercheurs. Je ne sais pas s'ils apprécieraient qu'on les traite de stars. Mais néanmoins, c'est des gens qui ont beaucoup de bagages en termes de savoir et d'études et qui en sont à un point où ils sont très envie de transmettre. Ils ont écrit des livres. Je pense à Jacques Tassin qui animera la conférence du samedi soir, qui a écrit un très chouette livre chez Odile Jacob qui s'appelle « À quoi pensent les plantes ?» et qui là va spécifiquement parler des arbres parce que c'est notre entrée. Mais voilà, c'est quelqu'un de très chouette, Jacques Tassin. Vous pouvez déjà le découvrir en commandant son livre. Il a écrit d'autres livres sur les espèces invasives. C'est quelqu'un qui a un peu touche à tout et du coup qui a une vision très intéressante des plantes. On recevra aussi Geneviève Michon. Là, c'est l'entrée qui est un peu plus agroforesterie et les apports de l'arbre dans les systèmes agricoles. C'est aussi une des choses qui nous tient à cœur à Paysarbre, c'est de faire valoir les apports bénéfiques de l'arbre sur les territoires agricoles, parce qu'on sait bien que si on veut faire de la place à l'arbre, c'est avant tout avec les agriculteurs qui veulent travailler, parce que c'est eux qui entretiennent le paysage, c'est eux qui entretiennent une grande part des espaces dits naturels. Donc il faut travailler main dans la main avec eux, et du coup faire plus de place à l'arbre dans les systèmes agricoles, ça a un nom, on parle d'agroforesterie. Il y a diverses entrées dans l'agroforesterie, on peut mettre des arbres au milieu des parcelles, on peut aussi border les parcelles avec des haies ou les traverser avec des haies plus basses qui vont permettre... ça rend énormément de services, ça rend des services à la collectivité, parce que la qualité de l'eau, la filtration des eaux qu'on récupère... c'est tout ça, enfin je veux dire
la lutte contre l'érosion, la biodiversité, les corridors écologiques, il y a plein de services effectivement rendus par la haie.
Par la haie, l'arbre hors forêt, ce qu'on appelle l'arbre hors forêt, c'est-à-dire l'arbre qui va travailler avec les humains
dans les milieux agricoles.
Dans les milieux agricoles. Donc ça c'est vraiment l'entrée de la journée du dimanche, et comme l'année dernière on invite aussi justement nos exploitants agricoles du coin, à savoir beaucoup des vignerons, des viticulteurs qui viendront avec nous échanger sur les pratiques, et justement parce que de plus en plus ça se développe, il y a une prise de conscience qu'il faut lui faire plus de place à cet arbre qui nous manque et qu'il faut en remettre quoi.
Et tout le programme est en cours d'élaboration avec toute une équipe de joyeux bénévoles, de joyeux et joyeuses bénévoles.
Il sera bientôt en ligne sur le site de Paysarbre. C'est imminent.
Donc voilà, le programme est en cours d'accouchement, on va dire. Le visuel bientôt aussi, vous découvrirez notre nouvelle affiche. Et vous pouvez nous suivre sur deux pages, page Facebook, donc la page de Paysarbre que vous connaissez, j'imagine, déjà. Et puis une page qui a été créée spécialement pour l'événement de la petite fête de l'arbre.
Mais c'est-à-dire qu'à Paysarbre, on est accompagné par plein de bénévoles et on a certains de nos bénévoles qui ont dit nous, on voudrait travailler sur les réseaux sociaux, faire de la publicité. Il se trouve que c'était concomitant avec... on a demandé un peu d'aide à la communauté, justement, à travers un financement participatif. Et donc il y avait un vrai désir cette année d'être présent un peu plus sur les réseaux, parce que c'est vrai que à la base au conseil d'administration de l'association, bah, on n'est pas des grands utilisateurs des réseaux. Et ben là on s'est dit carrément on y va à fond, parce que on a eu des propositions dans ce sens là et donc là cette année on est très présent sur les réseaux. Je sais que ça tourne beaucoup en ce moment sur Facebook. Donc il y a la page Pays Arbres Facebook, mais il y a une autre page, parce que on a décidé d'aller vraiment au bout de la démarche, et on a décidé que en marge de la petite fête de l'arbre cette année, on lançait le hashtag J'aime les arbres.
Alors, et la page Facebook du même nom, J'aime les arbres.
Alors la page Facebook a exactement le même nom, c'est hashtag J'aime les arbres. Donc en tapant hashtag J'aime les arbres sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez très très vite trouver le mouvement qui anime les réseaux sociaux en ce moment. Alors pourquoi le hashtag? C'était moi au début je me suis renseigné sur ce hashtag. Finalement c'est une invention assez récente, le concept, hein, ça a une dizaine d'années. Et on est sur l'idée d'une métadonnée, c'est-à-dire que autour d'un mot, on peut aussi dériver, on peut essayer de voir le sens caché, les sens à côté, vers quoi ça renvoie. Donc c'est l'idée du méta, hein, ça vient du grec, méta, c'est justement à côté, au-dessus, ce qui est induit par le centre, quoi. C'est le côté méta. On va le retrouver dans métamorphose, dans métaphysique.
Donc il y a tout un mouvement autour de la page Facebook J'aime les arbres et du hashtag J'aime les arbres. Et il y a aussi vous pouvez trouver plein de petites vidéos en ligne qui sont très sympathiques. En fait, c'est des personnes qui ont donné quelques secondes de leur temps et à qui on a demandé pourquoi vous aimez les arbres. Donc les petites vidéos commencent par « J'aime les arbres parce que ». Et voilà, il y en a des très touchants, il y en a des très simples, des évidentes, des très pudiques. Voilà, c'est plein de petites vidéos que vous pouvez découvrir au fur et à mesure sur tous les réseaux.
Voilà, donc ça c'est notre présence en réseau. Pour dire aussi, vous l'avez entendu, qu'on fait un financement participatif, avec tout ce qu'on vous a donné, vous avez des indices. Si vraiment vous êtes motivé pour nous aider, vous devriez pouvoir nous trouver.
C'est sur Hello Asso.
C'est sur un site qui s'appelle Hello Asso. Alors, on les aime bien aussi. C'est un site internet qui fait du crowdfunding. Hein. Je vais aller dans le sens du spoil.
Yes.
Et ils ont une spécificité, c'est que ils demandent pas forcément une participation pour le site. C'est à votre bon cœur. C'est-à-dire, c'est à prix libre, quoi. Si on veut donner 20 euros à Pays Arbres, on peut ne rien donner au site, ou on peut leur donner un peu pour qu'ils continuent à faire une plateforme pour récupérer les dons. En tout cas, c'est un outil très pratique pour les assos. On est content de travailler avec cette plateforme-là.
Et ça va vraiment nous permettre ce financement participatif va vraiment nous permettre de mettre en place cette petite fête. Voilà, qu'on met en place avec plaisir chaque année, mais qui sera encore plus belle et encore plus, je ne sais pas comment dire, plus développé, plus riche.
Vous voyez, vous n'avez pas l'image, mais en fait, dans le studio, Raphaël fait l'arbre.
Des grands gestes.
Elle sera encore plus arbre que les années précédentes. C'est garanti. Non, mais c'est surtout, ça nous permet d'être un peu plus à l'aise pour défrayer, pour faire venir des gens d'un peu plus loin. Il y a aussi, on va être aussi sur une entrée poétique, parce qu'on est au milieu du printemps des poètes. Donc, il y aura tout un moment dédié aux arbres dans la poésie, avec des lectures en bord de l'eau. On espère qu'il fera beau. Ça sera notre choix, qu'on passe au milieu des intempéries du mois de mars. Mais même si le cas inverse se présentait, on trouvera des solutions à l'intérieur. On vous prépare tout plein de belles choses. On vous prépare aussi des choses qui vont animer la ville les semaines qui précèdent, en lien avec tout le monde associatif, l'eau des voix, hein, faire de la synergie et créer des liens. C'est aussi important dans des petites villes comme les nôtres, c'est quand même très très riche. Et puis il se passe plein de choses à l'ODEF. Du coup, voilà, on va travailler avec les jardins partagés, on va travailler avec la recyclerie. Merci à eux de nous accompagner. Je pense à Humus Sapiens Pays Doc. Enfin, il y a plein d'assos qui nous aident, et ça va être encore une fois une belle édition. Voilà, on arrête de faire l'article. Peut-être là, on s'est étendu. On va se quitter pour ce bruit dans les feuilles. On va vous remercier encore une fois d'être attentif. N'hésitez pas à nous faire des retours, à nous envoyer un petit mail sur notre boîte mail. C'est toujours sympa d'avoir des retours, parce que des fois quand on parle à la radio, on sait pas trop qui nous écoute. Donc n'hésitez pas à faire des retours, ou à poser des questions, ou à nous dire que vous nous aimez bien. On vous remercie de votre écoute, et on vous dit au mois prochain. Merci de votre écoute.
Merci à vous. On se quitte en musique avec L'Aube à Ruth. qui est un groupe de chants polyphoniques du Montpellierin, des jeunes avec une pêche d'enfer. Et la chanson qu'ils nous interprètent, ça s'appelle « L'herbodagramme ». Et une des phrases très jolies, je trouve, dit « C'est sur la lisière qu'est la liberté ». Merci beaucoup, bonne soirée.
L'amor che ti spero, guardo la verdad, cal segre l'uriero, lucros del balat, grano la miseria con fluris lublate. E si la tal vero, che es la libertad, l'amor che ti spero, guardo la verdad, cal segre l'uriero, lucros del balat, grano la miseria con fluris lublate. E se lo sei l'uno, ne per la fin, ne per in fasuno, cerca l'ucamin. L'usse tu sei l'uno del sera al mattin, l'ave sofferuno più di sto canie. E se lo sei l'uno, ne per la fin, ne per in fasuno, cerca l'ucamin. L'usse tu sei l'uno del sera al mattin, l'ave sofferuno più di sto canie. E si la tallero, che sta libertà, tu vieni il muriero, porto la verità. La vita te spero, de croce in balà, tu mi sarà miserio con grano rublate. E si la tallero, che sta libertà, tu vieni il muriero, porto la verità. La vita te spero, de croce in balà, tu mi sarà miserio con grano
Semenier, l'herbe. sagrada.